le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture en ce début de dimanche. Il est 8h30, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Aujourd'hui, avec le pasteur Émile Lazare de l'église adventiste d'Aubervilliers et de Paris 13e, la méditation qu'il nous propose ce matin porte le nom d'un film, À la poursuite du bonheur. Ça me donne envie de le suivre. Et vous ?
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez ce matin. J'ai choisi comme passage de méditation et de réflexion biblique les paroles directes de l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 1, versets 13 à 16. Je cite. « C'est pourquoi soyez prêts à l'action. Restez attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saint dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints parce que moi, je suis saint. » Fin citation. Pour l'apôtre Pierre, une vie équilibrée, bien maîtrisée, qui nous offre le bonheur est caractérisé par l'excellence morale. La sainteté est l'assurance de vivre dans l'espérance, dans la grâce, dans l'amour. Le problème est qu'on a une inflation des mots utilisés pour définir cette excellence morale. On trouve les mots « juste »,« saint », »,« parfait », »,« sans péché », »,« sans tâche », etc. Et quand nous commençons à expliquer tous ces mots, nous tombons dans une confusion de définitions qui provoque des disputes stériles et même des schismes entre chrétiens. J'aimerais avoir un mot pour englober tous ces termes. Un mot qui fait la synthèse du projet d'excellence morale voulu par Dieu, pour chaque chrétien qui est prêt à le suivre. J'ai pris un dictionnaire et j'ai cherché ce mot fédérateur. Le plus approprié pour définir l'excellence morale, la sainteté, que j'ai trouvée, est une notion dont on entend de plus en plus dans notre société aujourd'hui, l'intégrité morale. Être une personne intègre signifie trois choses. Premièrement, avoir des valeurs morales claires et bien définies. Deuxièmement, vivre avec ses valeurs. Et le troisième élément est le plus important dans la définition de l'intégrité. Rester fidèle aux valeurs acquises dans toutes les circonstances, et surtout quand la pression pour abandonner ces valeurs devient insupportable. L'aspiration à l'intégrité morale est universelle, même si les motivations peuvent différer. Certaines veulent être irréprochables pour acquérir la respectabilité sociale, quelques-uns pour avoir un équilibre psychologique. Notre estime de soi, le poids de nos paroles, la réussite totale dans la vie, c'est-à-dire dans tous les aspects de notre existence, dépend de l'intégrité morale qu'on possède. Pour illustrer l'importance de cette intégrité morale dans l'existence humaine, permettez-moi de vous donner un exemple. Dans les pays de l'Europe de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont installés des régimes totalitaires basés sur l'idéologie communiste. Les nouveaux maîtres du jeu, entronisés avec l'aide des soviétiques, avaient un grand handicap. Ils ne suscitaient presque aucun enthousiasme. l'essentiel de la population restait toujours attaché aux valeurs de la démocratie et espérait que les élites de l'ancien régime allaient se redresser pour changer la donne. Conscients de ce manque d'adhésion à leur projet, les imitateurs de Staline ont commencé à mettre en prison la majorité des intellectuels, des politiciens, des officiers de la société d'avant leur arrivée au pouvoir. Le but était simple, briser leur rectitude morale et les compromettre définitivement. Pour ça, les tortionnaires faisaient des pressions de toutes les façons possibles pour arracher de fausses dénonciations contre des amis et des collaborateurs proches. S'ils parvenaient à obtenir ça et à les embrigader comme des informateurs de la police secrète, la force de leur intégrité était brisée à jamais. Et ces modèles moraux sont devenus des pauvres gens qui ont porté un lourd fardeau jusqu'au tombeau. Les pressions ont été énormes, des interrogatoires interminables, des supplices physiques inimaginables, des pressions psychologiques insupportables. Par exemple, on détruisait leur dernière résistance en leur disant que leurs conjointes ou leurs enfants étaient mortes sans que ce soit vrai. Peu de ceux qui ont souffert sont restés fermes jusqu'au bout. Beaucoup se sont inclinés à un moment donné devant cette machine diabolique pour le lavage de cerveau que les communistes ont créée. Et ces gens qui ont perdu leur intégrité en signant n'importe quoi et en collaborant avec la plus perverse forme de police se sont enfoncés dans le désespoir et la dépression. La perte de l'intégrité a changé à jamais leur vie et leur image publique. Avoir une conscience limpide est fondamentale pour vivre le bonheur dans notre vie, aussi fragile soit-elle. Nous avons une preuve de plus pour montrer que le succès, sous tous les aspects, se construit sur l'intégrité. Cette preuve, nous la trouvons avec un personnage biblique célèbre et très aimé par les petits et les grands. Joseph, le fils préféré de Jacob. Ce Joseph, héros incontestable d'un quart du livre de la Genèse, est le prototype le plus fort de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Premièrement, il a été vendu par ses proches comme Jésus a été trahi par les siens. Deuxièmement, au moment de sa fragilité maximale, il doit affronter la tentation comme Christ le fera dans le désert après 40 jours de jeûne et de solitude. Et troisièmement, Joseph devient le sauveur de ses frères en pardonnant à ceux qui lui ont fait du mal, exactement comme Jésus est le sauveur qui enlève la culpabilité du pécheur. Dans un sens, Joseph annonce par son caractère le Messie qui devait venir. Ce caractère hors du commun, Joseph l'a bâti sur l'intégrité morale, avant toute autre qualité. Une intégrité qui a une architecture simple. Il y a deux piliers qui soutiennent l'édifice d'une vie bien équilibrée. Deux piliers qui ne bougent jamais, quelles que soient les circonstances. Le premier pilier de Joseph, nous le découvrons dans le livre de la Genèse au chapitre 38. Le bien-aimé fils de Jacob, jalousé par ses frères, est vendu comme esclave à une caravane qui descendait en Égypte. La vie du petit prince, habillé par son père avec des vêtements royaux, tourne au cauchemar le plus noir. Le statut d'esclave est la situation la plus méprisable qui existe. Par un concours de circonstances, Joseph est vendu à un autre dignitaire égyptien, Potiphar, le chef des gardes royales, une sorte de patron des services secrets. C'est un personnage puissant et craint par tous. Et ici, au moment le plus dur de sa vie, Joseph voit une petite lumière. Grâce à ses qualités et à ses compétences, il obtient une promotion. Il avance dans la hiérarchie de l'esclavage. Du serviteur domestique, il est nommé intendant de la maison, le superviseur de toutes les affaires de son maître. Joseph devient le favori de son patron. Et pour lui, l'espoir renaît qu'un jour il retrouvera la liberté s'il donne satisfaction. Mais bientôt, une occasion en or se présente dans sa vie. L'épouse de son patron le trouve beau, intelligent et nourrit une passion folle pour lui. Joseph pourrait profiter de l'opportunité pour devenir le double favori et de son maître et de sa maîtresse. C'est la meilleure occasion pour accélérer son affranchissement et retrouver sa liberté et son honneur. Il pourrait les manipuler tous les deux dans son intérêt. Mais quand Madame Potiphar lui propose de devenir son amant, la réponse reçue est offensante pour cette dame habituée à être satisfaite au moindre caprice exprimé. Pour les adeptes de l'opportunisme, les paroles de Joseph sont stupides et suicidaires. Comment peut-on rater une telle occasion de sortir de l'enfer? Ta famille t'a oublié, tes frères t'ont trahi, ton Dieu t'a abandonné dans un pays étranger pour vivre dans une condition terrible. Et d'un coup, la vie te donne une possibilité de t'en sortir. Il faut vite s'emparer de ce cadeau inespéré. Mais Joseph a une autre vision des choses, une autre architecture pour sa vie. Voilà sa réponse. Genèse chapitre 39, versets 8 à 9. Je cite. Il refuse la proposition de sa maîtresse et il dit à la femme de son maître « Depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit, sauf de te toucher, parce que tu es sa femme. Alors, comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu ?» Fin citation. Dans cette réponse se trouve le premier pilier de l'intégrité morale, la motivation des actions. Dans sa vie, dans son comportement, Joseph n'est pas guidé par les circonstances ou par les gens. Il se regarde dans le miroir de Dieu. Pour lui, la référence morale absolue est Dieu. C'est pour cela qu'il ne peut pas suivre la voie opportuniste proposée par sa patronne. Et cette référence morale absolue, qui est son Dieu, représente le premier pilier de l'architecture de l'intégrité. Il y a d'autres références morales qu'on peut avoir, la religion, l'Église, les parents, la société. Beaucoup de personnes sont motivées pour bien se comporter par leur appartenance religieuse, ou par le respect pour leurs parents, ou par désir de s'intégrer dans un groupe social. Mais ces références sont un grand problème. Sous la pression d'événements exceptionnels, elles ne résistent pas. En tant que pasteur dans une église issue de l'immigration, j'ai connu des gens qui avaient un comportement correct dans leur pays, où ils étaient encadrés par la famille, par l'église de leur enfance. Mais une fois qu'ils se sont retrouvés loin, dans un milieu différent, moins bienveillant, ils ont craqué et leurs agissements sont devenus méconnaissables. Toute autre motivation morale pour notre comportement qui n'est pas absolue, qui ne se base pas sur la présence de Dieu dans nos vies, va chanceler à un moment ou à un autre. La force morale d'une personne vient du miroir dans lequel elle se contemple. Avant de découvrir le deuxième pilier de l'intégrité de Joseph, je vous invite d'écouter un petit extrait du psaume 43, mis en musique par Félix Mendelssohn. Ce sont peut-être les paroles que Joseph a prononcées dans ses moments de détresse. « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. »
Oh.
Le deuxième pilier de l'intégrité de Joseph, nous le découvrons le jour où il rencontre ses frères, ses bourreaux d'autrefois. À cause du refus catégorique d'être l'amant de sa patronne, Joseph est jeté en prison et traverse une période plus critique que jamais. Abandonné dans les geôles de la prison du Pharaon, il va s'en sortir d'une manière inespérée. Grâce à Dieu, qui l'aide à expliquer les rêves du Pharaon, Joseph sort de la prison, franchit les marches de la gloire et devient le deuxième homme dans la hiérarchie de l'Empire. Plus qu'un simple dignitaire, il devient l'espoir de tout un peuple et même d'une vaste région du monde. Il évite une terrible famine, sauve l'Égypte et les populations environnantes. Ses frères, menacés par cette famine, arrivent devant leurs frères pour acheter le blé nécessaire à leur survie. C'est un face-à-face chargé d'émotions pour Joseph. Comment va-t-il réagir? Comment traiter ces monstres qui lui ont volé sa vie, sa jeunesse, sa famille, son futur désiré? La blessure est profonde en lui. Il voit encore leur visage déformé par la vengeance devant la souffrance produite par l'arrachement du foyer paternel. Il porte dans sa chair les humiliations d'un esclave et il ne peut pas oublier les destructions des meilleures années de sa vie. Maintenant, son pouvoir est illimité. Il dispose de la vie et de la mort sur eux. C'est son moment de gloire. Que fera-t-il? Laissez-moi vous lire quelques extraits du livre de la Genèse. Il, Joseph, s'éloigna d'eux pour pleurer quand il les rencontre pour la première fois. Chapitre 42, verset 24. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Au moment où Joseph dévoile sa vraie identité à ses frères frissonnants de peur. Chapitre 45, verset 15. Il les consola en parlant à leur cœur. Quand ses frères étaient terrifiés de la possible vengeance de Joseph après la mort de Jacob leur père. Chapitre 50, verset 21. Sûrement, Joseph ne réagit comme la plupart des gens. Il fait exactement le contraire de ce qui est dans la nature humaine, avec des conséquences extraordinaires pour sa vie et aussi pour celle des autres. Il a choisi d'envisager les choses par les yeux de Dieu, et malgré les nombreuses épreuves, il arrive là où personne ne pouvait l'imaginer. Il pardonne l'impardonnable à ses frères, les sauve de l'anéantissement et restera à jamais le précurseur du grand sauveur de l'humanité. Le deuxième pilier de l'intégrité que Joseph montre par son attitude envers ses frères coupables est la compassion et la compréhension pour la faiblesse humaine. Joseph a des émotions intenses, mais cette capacité de compatir et de comprendre l'humain est le fruit d'une réflexion approfondie, renforcée par la perception divine sur l'humanité. Il s'est emparé des lunettes de Dieu quand il a jugé les actions de ses frères. Les versets 19 à 21 du chapitre 50 du livre de la Genèse illustrent cette capacité de voir autrement les gens. Je cite. Joseph répond à ses frères, « N'ayez pas peur. Je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Maintenant, n'ayez pas peur. Je prendrai soin de vous et de vos familles. Par ces paroles, plein d'affection, Joseph rend courage à ses frères. Fin citation. Cultiver la compassion et la compréhension pour mon vis-à-vis n'est pas facile et n'est pas une qualité humaine innée. C'est une grâce que Dieu nous fait et qu'on doit garder soigneusement. C'est une discipline personnelle qui est fondamentale pour l'architecture de notre intégrité. Quand on cultive la compassion et la compréhension à la manière de Joseph, il faut s'imposer une ligne de pensée qui ne tient pas compte des émotions négatives qui parfois nous submergent. Pour bien mettre en place ce deuxième pilier, voilà quelques éléments qui le composent. Je vous propose 5 éléments. Premièrement, faisons l'effort de se mettre à la place de l'autre et de sortir de la gravitation autour de sa propre personne. Deuxièmement, cherchons des circonstances atténuantes pour nos débiteurs et cessons de chercher seulement pour nous. Troisièmement, manifestons la confiance dans l'évolution en bien de l'autre et soyons prêts à offrir une deuxième chance aux relations brisées. Quatrièmement, bannissons avec horreur tout ressentiment, toute délectation perverse que la vengeance pourrait nous procurer. Et cinquièmement, si nous choisissons de vivre le pardon, pardonnons sans réserve et sans condition. La grandeur d'une personne se trouve dans cette capacité à regarder les autres au-delà des pulsions du moment que notre nature humaine nous fournit. Il y a quelques années, en Roumanie, mon pays natal, la télévision nationale a fait une grande enquête dans la population avec la question « Qui est le plus grand Roumain de tous les temps ?» À la surprise générale, dans le top 5 des grandes personnalités, parmi les rois, les princes, les poètes de génie, les écrivains célèbres, s'est retrouvé le nom d'un pasteur, luthérien, Richard Wurmbrand. Juif d'origine, militant du Parti communiste entre les deux guerres mondiales, athée convaincu, rien ne semblait le prédestiner aux grandes actions qui resteraient dans la mémoire d'un peuple. Un jour, vers 1938, il a rencontré un moine orthodoxe qui a mis en doute ses certitudes sur la vie et l'a dirigé vers une autre source d'inspiration, la Bible. Son existence a alors radicalement changé. Avec la même passion comme autrefois pour les idéaux révolutionnaires des communistes, il s'est lancé dans la prédication de l'Évangile. Quand le régime stalinien s'est installé dans le pays, ses anciens camarades ont voulu le punir pour la trahison des idéaux révolutionnaires. En février 1948, immédiatement après le départ du roi Michel, il est arrêté et commence un calvaire inimaginable dans les goulags de rééducation jusqu'en 1964. Il a connu toutes les souffrances physiques et morales, mais il n'a jamais cédé à ses principes. Il est resté droit comme un symbole de l'intégrité pendant toute cette histoire atroce du totalitarisme. Libéré de la prison, il a été pratiquement poussé vers le départ en Occident. En 1990, de retour dans son pays, sa première visite a été dans un cimetière sur la tombe de son tortionnaire le plus féroce. Et là, sur la pierre tombale, il a déposé une rose, comme un symbole de pardon, de l'absence de toute forme de revanche. Sa vie et surtout cette image sont restées gravées dans la mémoire et la conscience d'un peuple entier, comme un modèle d'intégrité morale, une intégrité qui fait la grandeur d'une personne, qui offre la paix et le goût d'un bonheur sans pareil. Dans notre monde aujourd'hui, où des intégristes de tous les bords, ressurgissent, bruyantes et agressives, hypocrites et intolérantes, narcissistes et sociopathes. Il faut que l'intégrité réelle se montre de plus en plus. Cette intégrité avec son architecture a deux piliers. Premièrement, Dieu comme référence morale absolue, notre miroir de contrôle. Et deuxièmement, les lunettes de Dieu avec deux lentilles, celle de la compassion et celle de la compréhension pour la faiblesse humaine. Si ma vie était un film, je choisirais à la poursuite du bonheur, plutôt pour le titre que pour le contenu. Parce que moi, en tant qu'humaine, vivant sur cette terre, je cherche chaque jour à vivre un peu de bonheur. Et parfois je prends du mauvaise voie en croyant que la joie produite par le succès professionnel ou la satisfaction de gagner un peu plus d'argent sont signes de bonheur. Mais toujours, on constate qu'une fois l'euphorie passée, on retourne aux mêmes angoisses et doutes. Et si pour un moment, on faisait confiance à cet apôtre Pierre, qui disait il y a presque 2000 ans que notre destinée, notre accomplissement en tant qu'humain est de se rapprocher de l'excellence morale de Dieu. Je cite 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. « Dieu vous a appelé et il est saint, alors vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. » Sa théorie était simple. Le bonheur humain passe par la quête de l'intégrité morale. Joseph, ce héros du livre de la Genèse, prouve que cette théorie est vraie. Pourquoi ne pas l'essayer nous aussi? Pour cette journée et pour la semaine qui commence, je vous souhaite de vivre le bonheur procuré par la poursuite de l'intégrité morale.
Bénis le Seigneur pour mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur pour mon âme, bénis le Seigneur à jamais.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Émile Lazare de l'église adventiste d'Aubervilliers et de Paris 13e. Merci à Viviane Noël et à Éric Boisset pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Retrouvez cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Vous y trouverez le texte ou la réécoute. Et si vous désirez recevoir le texte de cette émission par courrier, c'est possible en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Très bonne journée à vous tous à l'écoute de France Culture. À suivre tout de suite le journal, puis vous retrouvez Marc-Alain Wacknin pour Talmudique.
Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur. Des fleurs de peur, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis le Seigneur à jamais.
Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un sol sec et dur, ingrat pour ta tendresse. Mais ce sol...